Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite d'Adil Farkan et de toute son équipe. Et oui, les informés du lundi au vendredi, 19h, 20h. La plage horaire de Time Sport, c'est quoi? C'est 20h, 21h. On est ensemble tous les soirs sur cette antenne à travers le pays. Mais aussi, vous pouvez nous retrouver sur l'application Beurre FM. Sans oublier le site internet beurrefm.net. Au menu de cette émission, on se mardi 14 décembre 2021. On parlera de quoi? L'UEFA au cœur de la polémique. On reviendra justement sur ces fameux matchs et le tirage au sort avec un Lille-Chelsea, sans oublier aussi le PSG-Real. Conference League, l'OM doit-il jouer à fond cette fameuse coupe européenne? Et aussi Mercedes qui conteste encore le titre d'un certain Max Verstappen. Et oui, c'est Toto Wolff qui essaye de le répéter avec toute son écurie. Du moins, Lewis Hamilton, le Britannique, s'en fout un peu. On verra bien sûr tout cela sur cette planète sport. Le 0153483000, c'est le numéro du standard. N'oubliez pas de réagir avec nous. Nous accueillerons pour la première fois avec nous sur cette magnifique antenne qui est Beurre FM, Yazid de Football Training, Football Intelligence Training, voilà, qui nous fait le privilège de nous accompagner durant cette émission. Allez, c'est parti avec le JT Sport de Jason.
Time Sport.
Et oui, on démarre les infos du mardi par les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est désormais officiel, la cérémonie d'ouverture aura bien lieu sur la Seine où des tribunes seront installées le long du fleuve pour permettre aux spectateurs d'y assister gratuitement. En football africain, gain notre or a été remercié par la sélection nigériane à quelques semaines du début de la CAN 2022. Le Nigeria n'a pour le moment pas indiqué son successeur. À Saint-Étienne, en revanche, on connaît le probable successeur de Claude Puel. Il s'agit de Pascal Duprat qui devrait rejoindre les Verts dans les prochains jours, ce qui devrait logiquement officialiser le départ de Puel, toujours mis à pied par la direction. Et enfin, un mot de natation avec la terrible affaire Yannick Agnel. Accusé de viol sur mineur, le double champion olympique français aurait bien reconnu les faits sur une jeune fille de 13 ans en 2016. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire, a annoncé la procureure de la République de Mulhouse en charge de l'affaire. C'est tout pour ce mardi, on vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et voilà, avec nous ce soir pour m'accompagner, on aura notre consultante Diane. Comment ça va Diane?
Bonjour, mais ça va bien et toi?
Ça va très très bien Diane, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu sur l'antenne de Beurre FM.
Ouais, j'étais au charbon.
Ah ben c'est ça, elle travaille dur Diane. Le coach Tolé est avec nous aussi ce soir, comment ça va?
Bonsoir tout le monde, ça va impeccable, Bilou, ça va bien.
Ouais, tranquille. Ça va bien, tranquillement.
Bien.
C'est ça, voilà. Et oui, on
comment
se rappelle
bah, de... Diane.
Ah, il est pas mal. Il est pas mal, celui-là. Et oui, allez, on rejoint Toulon avec notre Louis-Marie National. Comment ça va, Louis-Marie?
Ça va pas mal du tout.
Ouais.
Pour la dernière semaine à Paris avant les vacances, donc on a hâte de redescendre, prendre un peu le soleil.
Et Yazid, qui est là avec nous. Allez, Yazid.
Bonsoir.
Voilà. Bonsoir Yazid. Comment ça va, Yazid?
Très, très bien.
Il y a pas mal de personnes qui nous écoutent ce soir. En attendant, Yazid, notre invité. Un fin connaisseur de cette planète football, mais pas que. Eh oui, on a reçu des messages sur le compte Tamsport, ne serait-ce sur celui de Twitter. Et voilà. Alors, on va essayer de vous chouchouter, mais aussi de vous titiller.
Allez-y.
Hein?
Allez-y.
On pourra le faire. On va s'attarder sur le premier sujet de cette émission.
Tamsport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Eh oui, c'est l'UEFA, justement. La planète football scandalisée par le fiasco de ce fameux tirage au sort. Elle nous dit quoi, notre consultante, justement, Adienne?
Ça fait pas très sérieux, quoi,
ouais.
D'en arriver
pas
là
du tout.
Et faire... Il y a une multitude d'erreurs, c'est... Moi, je sais pas, est-ce que c'est vraiment des erreurs? Est-ce que c'est...
Ah, Diane, on va pas appeler au complotisme.
Non, on va pas appeler au complotisme, mais voilà. C'est aussi peut-être le moment de remettre en cause un petit peu ce championnat, peut-être de changer les équipes, d'intégrer d'autres équipes, de... Je sais pas, de...
Ouais, de ramener, quoi, la Super League, c'est ça.
Ouais, de mettre un petit coup de jeune et un petit coup de dynamisme à ce
à tout
championnat.
Ça.
Ouais.
Sans changer les équipes.
Alors, Louis-Marie.
Sans changer les équipes, on pourrait dire qu'il faudrait enfin mettre un terme à ce tirage au sort partiel.
Ouais, selon toi.
Incompréhensible pour tout le monde. Moi, je considère, on met tout le monde dans le même pot, on change et on arrête de dire on ne peut pas tomber contre l'équipe du même pays, ceci, cela. La seule équipe contre laquelle on ne devrait pas pouvoir tomber, c'est celle contre qui on est tombé en poule. Pour le reste, arrêtons de vouloir ménager les susceptibilités des uns et des autres en disant les Anglais ne doivent pas se jouer avant, puis après les Italiens non plus. Et du coup, c'est ça qui rend la chose hyper complexe. Ça ne pouvait qu'arriver. Franchement, il faut avoir fait Bac plus 8 pour comprendre ces tirages au sort maintenant, et c'est devenu pénible.
Ouais.
Moi, honnêtement, pour le coup, et Dieu sait que je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais Florentino Pérez, il a parfaitement raison sur ce coup. Parce qu'à l'arrivée... qui est le cocu de l'histoire, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, ils avaient pris Benfica Lisbonne, ils se retrouvent avec le PSG, alors qu'en plus, leur tirage était légal. Leur point de vue, qui est de, ils ont fait un recours d'ailleurs, qui est de dire, on aurait dû reprendre à l'instant où il y a eu l'erreur, je le trouve parfaitement justifié. Parce qu'il y a un moment, quand il y a un match qui se joue et qui s'arrête à la 30e, on repart pas à zéro 9 fois sur 10. Alors pourquoi on ferait pareil avec un tirage? Le tirage du Real était légal. Donc ils ont rajouté des erreurs à des erreurs à des erreurs. Ouais. Et comme disait Jen, ça fait vraiment, vraiment pas sérieux.
Sérieux, mais après, il faut aussi avoir la logique qui est derrière, derrière ce championnat. En fait, pourquoi on veut pas que deux équipes du même pays tombent en premier? C'est tout simplement parce que médiatiquement, pour le pays, c'est pas intéressant. Ça va pas ramener. Parce que si tu sors tout de suite les deux équipes anglaises, et les Anglais, ils vont plus regarder le championnat. Donc, forcément, le médiatique,
vu comme ça, c'est
la monétisation.
On sait pourquoi c'est comme ça. Il n'y a pas de sujet. Moi, je dis juste que le sportif devrait primer. Et la logique sportive et la cohérence.
C'était comme ça.
C'était comme ça pendant longtemps. Hein.
C'était notre époque.
On est passé de l'utopie à.
Le coach Tolé, ça te fait sourire, non?
Non, mais jusqu'en 2002, c'était comme ça. Maintenant, je sais bien que les droits TV ont pris la.
Exactement.
La relève.
Ont pris la relève.
Comme disait Yacine.
Qu'est-ce que je te dis? C'est vrai que c'est une erreur de débutant, d'amateurisme. Mais bon, je pense qu'on en fait. Enfin, à un moment, il faut passer aussi à autre chose. On ne va pas s'attarder sur. On sait qu'il y a des enjeux, mais on va pas s'attarder sur ça. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves à résoudre dans le monde du football qu'un tirage au sort qui a été, et je suis d'accord avec Louis-Marie, c'est vrai que pourquoi ne pas avoir repris le tirage à ce moment-là? C'est bon. Il y a d'autres choses beaucoup plus, pour moi, graves à régler dans le monde du football.
Il y a des choses beaucoup plus graves. Oui. Justement, on a Yazid. Mais justement, on va essayer d'y remédier avec Yazid, le coach Tolé. On a pas mal de coachs ce soir, hein. Ouais, que ça soit avec le football féminin, coach mental, préparation. Mais en tout cas, oui, le football training, football intelligence training. Yazid, vous en pensez quoi, justement, de ce fiasco, faut le dire?
Depuis
ce début de semaine.
C'est ridicule. C'est ridicule.
C'est incroyable.
Pour une instance comme l'UEFA. Après, au niveau de. Des tirages, il y a bien des têtes de série au tennis. Voilà. Qu'on s'arrange pour qu'il y ait la meilleure finale possible. Moi, ça me dérange pas. De toute façon, la seule vérité, c'est celle du terrain. Voilà.
Pour moi, au tennis, t'as le droit de jouer un Français dès le deuxième tour. Hein.
Aussi.
Mais
au niveau de la tête de série.
Ça, on est d'accord, faut pas y toucher.
Voilà.
C'est ça. T'as mérité ton classement, t'as raison.
Voilà. Donc, si on s'arrange pour avoir la meilleure, si c'est les meilleurs qui passent, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, après.
Mais justement, c'est ça, et je suis d'accord avec Yazid. Il y a des têtes de série qui l'ont mérité sur le terrain. En revanche, que tous les ans, les clubs français comme le PSG se fassent avoir parce qu'ils ne peuvent tomber que à l'arrivée
sur des
Espagnols et des Anglais parce que les statistiques sont contre eux. Vous voyez que depuis des années, le PSG ne tombe que sur des Espagnols ou que sur des Anglais. Ils ne peuvent pas tomber sur des Portugais parce que comme il y a beaucoup de clubs espagnols et beaucoup de clubs anglais qui ne peuvent pas se jouer entre eux, les statistiques font que c'est quasiment obligé que ces clubs-là récupèrent les petits poussés. Et du coup, c'est toujours les mêmes qui se font avoir. Donc il y a un moment, Yazid le disait très bien, la logique du terrain. Il y a juste les premiers de poule, juste les deuxièmes, et c'est marre. Moi, je m'arrêterai là. Mais bon, ils m'écouteront pas à Agnan.
Oui, tout simplement.
Pardon ?
Oui, tout simplement. Bon, assez facilement. C'est juste ça. Yazid, selon vous.
Ça s'arrête là.
Ça s'arrête là.
Là-dessus, c'est vrai. Écoute, pour moi, à partir du moment où la vérité du terrain, elle parle, peu importe qui en rencontre. Et puis après, pour le PSG, moi, je suis pas
d'accord. Alors, le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain, ils sont capables de taper n'importe quelle équipe. Donc, moi, j'ai envie de dire, quand t'es le Paris Saint-Germain, tu veux taper les gros tout de suite. Tu dois pas te dire, j'ai pas envie de taper celui-là tout de suite. C'est comme Florentino Pérez qui se plaint d'avoir le PSG. Arrêtez, les gars, vous.
Et pour Lille qui finit premier de poule et qui à chaque fois prend Chelsea. C'est pas drôle quand même, ils prennent le plus dur deuxième à chaque fois, quoi. Parce qu'à cause de ces statistiques encore. Donc, ça servait à quoi d'être premier de poule pour prendre le tenant du titre?
Après, quand t'es quand même à l'UEFA, t'es dans ta tête, t'es premier, quoi. Moi, tu dois pas. Moi, je suis d'accord, je rejoins
Yazid,
ce qui vient d'être dit, quoi. T'es là pour jouer et donner le maximum. Je pense pas qu'en termes de préparation, on fasse les préparations en disant, alors, dans l'hypothèse que si jamais on tire le troisième du. En fait, tu y vas en disant, là, on va tout arracher. Le but du jeu, c'est de donner le meilleur.
Vous avez tout à fait raison. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une iniquité quand même? C'est tout. C'est juste la question qu'on peut soulever.
De toute façon, les clubs et vu les pays qui sont représentés à l'UEFA, il y a une iniquité.
La France est bien placée en ce moment.
On voit toujours les mêmes nations. Il y a peut-être.
Avant l'arrêt Bosman, tu avais le champion qui allait en Ligue des Champions. Tu avais le champion, le premier, que ce soit français, anglais, moldave, etc.
Et tu te retrouves avec. Et tu te retrouves avec Nottingham Forest qui a gagné plus de Ligue des Champions que de championnat domicile, ce qui est quand même assez drôle.
Ouais, ouais, mais ça veut dire que
c'était pas les mêmes primes.
Pas
faux. Ouais. Le Paris Saint-Germain au-dessus, peut-être surclasse le Real Madrid. On a un petit peu peur de ce Real Madrid. La Liga moins forte en ce moment. Ouais.
Ouais, bah, moi,
peut-être. Ça. Non, on ne dirait pas
sur,
ça.
Sur un match de Ligue des Champions.
Alors, si on s'attarde justement sur ce PSG Real, le PSG reçoit et se déplacera après. Vas-y, ouais. Diane, justement.
Alors, c'est sûr que ça fait un avantage pour le Real.
Ouais.
Mais j'ai envie de dire, la réalité du terrain, c'est pas ça. Hein. C'était quand tu vois le PSG qui se fait éliminer par Manchester United à la maison au retour. Bah, je veux dire, voilà, c'est tout va. Pour moi, tout est dans l'instant T. Voilà, quand il y aura le match, on pourra discuter. Ouais. Mais là, pour l'instant, ouais. Peu importe les équipes qui se rencontrent. Et puis.
Et surtout, c'est dans 3 mois. Il y a un moment donné. Ouais. C'est toujours amusant ces tirages sur lesquels on essaie de discuter de qui est favori. Attends, l'équipe, on ne sait pas à quoi elle ressemblera dans 3 mois.
Mais c'est toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. Non, c'est ça. C'est dans 3 mois, ça arrive. Non, après, on aurait dû faire ça.
Il peut
non, mais c'est vrai,
Marie.
Regarde, je suis pas là en train de tacler les Parisiens.
Regarde Manchester. Tout le monde te disait. Il y en a plein qui sont dire ah bah Paris fait mieux le check Manchester que le Real. On va voir comment ils seront Manchester dans 3 mois avec leur nouveau coach parce que leur effectif il est énorme.
Ouais.
Donc la réalité d'aujourd'hui c'est que si ça se jouait demain, peut-être que il y a des favoris, mais dans 3 mois il peut se passer tellement de choses.
Oui, en 3 mois, il peut se passer des choses, des blessés, des peines de cœur. On a vu qu'au PSG, ça pouvait.
Bah, on va en parler après la pause. Avec.
mais c'est vrai, en fait, je comprends la question de Bilal. En fait, c'est ce PSG, on en attend toujours beaucoup cette année.
Oui.
On est l'année où ils ont fait le recrutement.
Voilà, c'est bon, c'est la bonne.
Le recrutement de fou, ça devrait être la bonne.
Qatar 2022.
Et on sait
c'est pour le Paris Saint-Germain.
Que, voilà, au grand moment, dans les grands moments où on attend le PSG, il y a toujours un truc qui fait que ça va pas.
Vous êtes
Giovanni et Jordan sont d'accord.
Vous le voyez parmi les favoris ? En ce qui me concerne, non. Hein. Mais je pose la question.
Quand tu tolères, allez, pose la question. Lui, Mario, aux auditeurs
quand,
aussi.
Quand t'as Neymar, quand t'as Mbappé, quand t'as Messi, quand t'as Verratti.
Exactement.
Tous ces mecs-là réunis, si bien sûr la mayonnaise elle prend, si l'état d'esprit est là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de si.
Ça
mais,
fait beaucoup de si. Hein.
Mais à partir du moment où ils mettent, s'ils sont capables de mettre l'état d'esprit et de se mettre au service du collectif. Il y a pas de
pour
mais
moi, pourquoi ils le feraient alors qu'ils le font pas depuis des mois.
Il y a pas de sujet
parce que peut-être
Zidane. Ah là là. On a Yacine Bouhanni qui nous le disait sur Sud-Africa vraiment il nous disait Zidane, que ouais mais il nous disait que Zidane serait plutôt le Qatar et non pas le Paris Saint-Germain. Là ça on a l'impression que ça s'est un peu perdu. Yacine.
D'accord.
Non mais d'accord. Ouais mais votre d'accord il me fait un petit peu peur. Votre d'accord. On dirait que vous savez des choses et que vous ne voulez pas dire.
Non.
Alors justement, non, mais vraiment. Non,
mais ça fait un an et demi.
Je vous titille un peu.
Non, mais ça fait un an et demi qu'on parle de Zidane à Paris. Et j'entends ça il y a un mois. Mais pour l'instant, bah écoute, ça reste là, quoi.
Ah, le timing est pas bon pour lui. Il faut dire ce qui est. C'est trop.
L'équipe de France.
Après la Coupe du Monde. C'est trop tard. Il aurait fallu qu'il signe il y a un an. Mais là maintenant, il va pas prendre le risque de signer alors que la Coupe du Monde, elle est dans moins d'un an. Elle est dans moins d'un an aujourd'hui. Donc c'est à dire que. Il faudra qu'il soit libre pour prendre potentiellement la succession de Deschamps qui ne laissera pas sa place comme ça, j'aime autant vous le dire. S'il n'y a personne sur le bord de la route après...
Il n'est pas prolongé, Louis. Hein.
Non, mais il n'est pas prolongé.
Ouais,
moi, d'accord, mais
pour la première fois depuis 10 ans.
Oui, non, mais si Zidane est en poste à ce moment-là, autant dire que Le Graët et Deschamps, ils vont se faire un plaisir de prolonger. Hein. Ils s'adorent, les deux.
Bien sûr. Hein.
Et ben, on aura Deschamps au PSG.
Oui, ah bah, ça serait pas mal.
Moi, je déconne.
Non.
Ben, ça serait plutôt pas mal, pourquoi pas. Non, mais après,
alors,
les stars du PSG, il leur faut vraiment un grand. Enfin, c'est que des égos. C'est difficile.
Ouais,
c'est
justement.
Hyper difficile à gérer une équipe comme ça. Les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, c'est souvent des équipes qui travaillent vraiment sur l'identité. C'est pas seulement en avoir une, mais travailler dessus et y tenir. Les mecs, à la 90e minute, ils ont le cœur pour leur équipe. Paris Saint-Germain, tu sens pas ça.
Ouais.
Tu sens plus la gloire personnelle de chacun, malheureusement. C'est y a rien pour l'équipe.
Zidane est taillé pour le Real Madrid, nous disait un certain Yacine Bouhanni, mais c'est vrai que ça sera assez difficile de le faire venir. Oui. Il y a trop de la situation est pesante, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, la direction, les joueurs, on ne sait pas. Leonardo, Nasser Al Khelaifi. Oui,
mais tu sais, dans la vie, c'est souvent une histoire de timing. Je pense que le timing, il est passé. Ouais. En tout cas, sur soi, le train est passé pour Zidane cette fois-ci. Il se représentera peut-être. Il y aura peut-être un deuxième tour, une autre fois pour le PSG. Mais là, je pense que c'est passé pour cette histoire. Il y aura pas de Zidane prochainement au PSG, je pense pas. Mais je reviens tout à fait Yazid.
Hein, comme Zidane.
Voilà, c'est ça,
exactement. Mais je le rejoins tout à fait que c'est ce type d'entraîneur qu'il faudrait parce que il faut que les joueurs le respectent en tant que joueur. Et c'est ça, ces grandes stars. Neymar, il ferait pas le mariole de la même façon face à Zidane parce qu'il le respecte, parce qu'il a ça a été son idole. Et ça change tout. Donc des joueurs, des entraîneurs comme ça, il n'y en a pas 100 000 qui pourraient gérer le vestiaire du PSG parce que comme l'institution n'est pas assez forte, je me tue à le répéter depuis des mois, l'institution, ouais, elle chie dans la colle depuis des mois, des années, ça ne marche pas, il n'y a pas d'institution au-dessus. Il faut que l'entraîneur soit d'un charisme énorme pour mettre tout le monde d'accord.
L'entraîneur, c'est pas Batman. Merci. Hein. Il y a aussi tout ce qui doit être autour. Hein,
mais on est d'accord, mais comme il n'y a pas autour, comme il n'y a pas autour...
Voilà. C'est le problème du PSG.
Il reste avec nous Yacine de Football Intelligence Training. On retrouvera cette interview après la première pause. Restez, chers auditeurs et auditrices, avec toute l'équipe de Time Sport. On revient vite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et voilà le retour du coach Tolé avec nous. Eh oui, la pause, il fait un petit saut.
Je reviens sur le banc de touche pour faire le lancement de la seconde période.
Il était sur la French Riviera, c'est ça.
C'est ça.
C'était pas mal ?
C'était pas mal.
Ah bah ok, nous aussi. Diane est toujours avec nous, sans oublier Louis-Marie. Voilà, il est là, Louis-Marie. Toujours pimpant, fringant. Eh oui, il y a de bels hommes, il y a des beaux garçons, il y a des belles filles sur le plateau. Surtout de Beurre FM. Vraiment, ouais. Pourquoi pas. Diane, toi aussi, une belle femme, il faut le dire. Giovanni est toujours là, le 01 53 48 3000. On est en compagnie de Yazid. Allez, on va commencer cette magnifique interview, on l'espère.
Time Sport. The special one, the special one.
The Football Intelligence Training. Il nous fait le plaisir de nous accompagner durant cette émission. Yazid, justement, qui s'occupe entre autres un peu de ce mental, de l'hypnose, psychanalyse peut-être. Il y a tant de problèmes dans le monde du sport, dans le monde du football aujourd'hui. Et on a vu le dernier en date, excusez-moi, Mauricio Icardi.
Ouais. Ah, Mauricio Icardi, c'est un problème particulier. Oui.
Particulier aussi, c'est vrai. Ouais. Mais il y en a pas mal.
Il y en a beaucoup.
Ouais.
Il y en a beaucoup.
Comment ça s'explique cela ?
Comment ça s'explique quoi ?
Ouais. Le ah bah justement,
fait beaucoup de fléau. Joueurs trompent leurs femmes, etc.
Non, pas ça.
On a une petite idée.
Moi je suis nature peinture. J'essaie de comprendre.
Bien sûr. Monsieur Femme, mal fait comprendre.
Dis-moi.
Non mais vraiment, ce problème avec l'état d'âme peut-être d'un joueur, la pression qui augmente lors d'un PSG Real à venir. Je sais pas, sur les terrains, avec la direction, la relation que mêle aujourd'hui le joueur à son club, à ses supporters. Voilà. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment on peut être cet athlète que CR7 essaye de jour en jour de prouver? Parce que c'est l'un des meilleurs, quoi.
Là, il nous faudrait... Pour moi, c'est le ballon d'or des ballons d'or de la détermination et du travail.
C'est pour ça que je le prends.
Et du mental.
Ouais.
Et du mental aussi.
Ça, c'est incroyable.
Ah, Yazid, moi, je voulais juste te demander, déjà, peut-être pour nous tous et peut-être pour les auditeurs, si tu pouvais vraiment présenter exactement ta structure pour qu'on comprenne un peu mieux ce que tu fais.
D'accord. Alors, moi, ma structure, vous me retrouverez sur Instagram, parce que j'ai
beaucoup
pas de site.
Sur Instagram, c'est ça.
Voilà, Football Intelligence Training. Moi, je suis dans le mental des footballeurs en particulier, plus des footballeurs. Après, il y a d'autres sportifs qui m'appellent, d'autres personnes qui sont dans d'autres disciplines, mais c'est surtout le football, moi, qui m'intéresse.
Ouais. Donc, toi, tu fais vraiment
le football.
Préparateur mental, du coup, quelque part.
Ouais, je fais de l'optimisation de la performance par le mental et non, j'aime pas préparateur mental, mais on fait le même boulot, mais après chacun a sa façon de faire.
Quelle est la nuance du coup entre les deux c'est qu'il y a une nuance qui te plaît pas.
Ce qui me plaît pas, c'est le terme de préparateur mental. Ça me donne l'impression d'avoir le pouvoir de préparer le mental de quelqu'un, sauf que ça, je peux pas faire. Je peux préparer que le mien. D'accord. Moi, mon but, c'est qu'il prépare son mental. Et quand je dis préparateur mental, j'ai pas envie que le joueur en face, il attende que moi je lui prépare sa tête. Je peux pas rentrer dedans, moi. Tu vois. Donc après, c'est à lui de faire le taf, quoi. C'est pour ça que j'aime pas ce terme de préparateur. Et je sais pas, on m'avait posé une question juste avant.
Oui, c'est de côté de l'aise, je crois.
Pourquoi le football?
Voilà.
Ah, pourquoi le
football? Une autre discipline.
Alors c'est très simple. Hein. Moi, j'ai fait un burn-out il y a 37 balais, il y a 8-9 ans. Et j'ai cherché dans quoi je voulais travailler, parce que vraiment, quand je dis burn-out, c'est burn-out. Et j'ai dit le foot, j'ai galéré pendant 2-3 ans à chercher ce que je voulais faire, et puis c'est arrivé comme ça. Moi, je voulais déjà travailler dans le foot et je savais pas pourquoi. Et puis au final, j'ai compris pourquoi. Dans le football, il y a énormément de... Il y a toute la jeunesse française.
Voilà. Et la jeunesse française, elle passe par le foot. Et moi, mon but, en fait, c'est que la jeunesse française, elle aille mieux. J'ai commencé en 2014. J'ai travaillé avec plus de 1000 gamins quand même. Quand je dis gamins, c'est des joueurs. Il y a des joueurs de 25 ans.
Ouais.
C'est pour être mes enfants, donc c'est pour ça que je dis gamins. Et je m'aperçois que ouais, ils sont vachement en souffrance. Et au final, comme moi, je l'ai été, comme moi, je l'ai refusé quand j'étais plus jeune.
Ouais.
Tu vois. Et je comprends un petit peu les mauvaises, tous les jeunes qui se comportent mal, tout ça. Je pourrais même te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a un mois où je me dis, waouh, on est tous. Tu veux?
Ouais.
Ok, c'est parti.
Sûr. Pour les... Allez.
Donc en fait, je suis chez moi, il est 23h30, j'ai faim, il y a rien dans le frigo, je prends la petite trottinette électrique et je vais au magasin.
Ouais.
Je prends ce que j'ai à prendre. J'arrive, je vais pour allumer la trottinette et j'entends quelqu'un derrière moi qui me dit, comment il me dit ça? Il me dit, toi, viens là. Moi, je suis de dos, je suis pas quelqu'un qui a peur, mais je t'avoue que là, j'ai peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit, je suis tout seul. Je sais que c'est pour moi en plus.
Ouais.
Alors que je suis de dos. Je me retourne, je vois le gars, et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il arrive en. Je le vois, il se presse comme ça. Et là, j'ai le réflexe. Et moi, tu sais, je vais pas me battre aujourd'hui à 46 balais, mais.
Bien sûr.
Mais j'ai, dans ma tête, je me vois où je vais taper, quoi, directement, tu vois. Et en fait, j'ai ce réflexe de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? T'as besoin de quelque chose, mon frère? Et là, il se calme, je vois son visage qui se calme, il marche plus lentement. Et puis là, il me dit, non, merci, j'ai besoin de rien. Il me prend dans ses bras, il me fait un câlin.
Oh ouais.
Un jeune de 25 ans, de quartier, bon, il avait un petit peu bu, etc.
Ouais.
Mais je ressors de là, après je reprends ma trottinette, je me dis, putain, mais le gars, il a besoin d'affection. C'est pour ça qu'il est violent comme ça, tu vois.
Ouais.
Et moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'étais aussi violent. Mais moi, j'ai pas manqué d'affection, moi, c'est tout le contraire, j'en ai eu trop.
Ouais.
Donc, je pensais que tout m'était dû. Tu vois, donc je me dis, pour les jeunes, si t'es violent et que t'as envie d'arrêter, c'est pas moi qui vais te dire d'arrêter, hein, si t'as vraiment envie d'arrêter de temps en temps, essaie de te demander si t'as pas reçu trop d'affection ou pas assez. Et pose-toi les bonnes questions. Voilà. Et les jeunes vont pas bien.
Ouais. Voilà. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, surtout.
Mais la crise sanitaire, la société, ils ont l'impression d'être au bout du tunnel. J'ai des gamins, des fois, qui me disent, j'ai envie de mettre fin à mes jours. C'est chaud quand même.
Ah oui, quand même.
Mais oui.
Dans le monde du football? Ou ailleurs.
Plus précisément, mais pas que dans le monde du football.
Ouais. Non, mais c'est juste. Ouais.
Bah, je vais dire dans le monde du football parce que je travaille avec 90% de footballeurs. Donc, des jeunes, j'en ai pas, c'est pas tous. Hein,
mais bien sûr.
Ils ont tous des problèmes.
Yazid.
C'est sûr.
Ouais.
Ils ont tous des problèmes. Mais j'en ai eu trop. Qui m'ont parlé, qui me disent ouais, j'ai envie de me foutre en l'air, j'en ai marre, j'y arrive pas, je sais pas où aller ma vie.
La vie est devenue dure.
Mais elle est devenue dure ici, pardon.
Ouais. Le mental.
Bah ouais, parce que le mental il va bien quand tu mets le cœur.
Bien sûr.
D'accord. Et le cœur, il est fermé. Il est fermé dans cette société. Tout le monde ferme son cœur. Et déjà tout petit, regarde, nous les garçons à 6 ans, on dit arrête de pleurer, t'es pas une fille, t'es pas un bébé. On coupe nos émotions, on garde. Et quand est-ce qu'on va les pleurer, celle-là?
Ben,
on va les pleurer quand on va taper des gens, en fait. Parce qu'on va pas. Ben, c'est ça.
Ouais.
C'est qu'en fait, pleure ce que t'as à pleurer, tu verras que ça ira beaucoup mieux, en fait. Mais je te dis, le cœur est fermé. Donc forcément, le cerveau, il nous maîtrise et il nous emmène toujours vers le bas. C'est le but du cerveau, hein.
Ouais. Louis-Marie, on va enchaîner aussi avec Diane.
Plus particulièrement par rapport au football, dans ce que tu disais. Est-ce que tu trouves pas que le climat ultra concurrentiel auquel ils sont confrontés très jeunes, avec cette sélection qui est tous les ans, qui est très stricte en fait finalement, hein. Chaque année il y en a qui sautent, et puis aller au bout du process c'est très dur. Est-ce qu'on crée pas un climat très très anxiogène autour de ces jeunes? Alors, et qu'on leur interdit justement d'exprimer leurs émotions parce qu'il faut être dur et fort.
Ouais, alors, c'est ça, on leur dit
qu'il
faut être dur et fort, alors qu'il faut leur dire, il faut pas leur dire ça, il faut leur dire qu'il faut être courageux, pas dur et fort.
Ouais.
Ils sont déjà forts. Alors, c'est en grande partie à cause de ça, mais après, c'est la compétition, c'est l'élite.
Ouais.
Il faut bien les accompagner. Le plus gros problème des enfants aujourd'hui, c'est pas l'élite, c'est ce que les parents mettent dans la tête des gamins à cause de l'élite. Voilà, c'est le problème des gamins aujourd'hui, c'est les parents.
Les parents. Voilà. On en revient beaucoup aux parents, c'est vrai. Même quand on reçoit des personnes issues des académies de football, Louis-Marie, le coach étoilé. Diane, une réaction avec Yazid.
En fait, notre invité. Pour en revenir à cette question des parents, le football aujourd'hui et la musique, ça reste quand même les deux plus grands ascenseurs sociaux pour permettre à cette jeunesse de s'en sortir. Et quand on a des petits jeunes comme ça qui sont dans des clubs où on leur dit tu as le potentiel pour.
Oui.
Et on va leur faire faire des détections, on va leur faire faire tout un tas de choses. Mais le problème, c'est que le seul modèle de réussite qu'ils ont en bas de chez eux, c'est l'échec. Et apprendre à construire quelque chose, c'est compliqué de se dire, moi, mon objectif, ça va être la Ligue 1. Et il va falloir, l'objectif, c'est la Ligue 1, il va falloir que je mette en place des étapes. Et je pense que c'est en ça que ton travail intervient justement avec cette jeunesse, c'est de déjà de les aider à s'organiser eux-mêmes, de mettre en place des actions qui vont leur permettre mentalement de se dire en un, il va falloir que je fasse ça, en deux, il va falloir que je trouve une solution pour en arriver là. Et c'est vrai que dans ce sens-là, l'optimisation de la performance par le mental, c'est très important parce que ça va permettre à ces jeunes de se dire mais t'as pas qu'un rêve, t'as aussi une structure qui va te permettre d'arriver à ce rêve, et cette structure, c'est toi. Donc il va falloir que tu construises étape par étape, que t'ailles chercher le bon tiroir dans ton cerveau pour mettre ça en place.
Le problème, justement, c'est que tu l'as dit, le problème, ça serait pas que finalement leur projet de sport, de sportif de haut niveau, il leur appartient plus vraiment parce que ça devient le projet d'une famille. Tu parles d'ascenseur social, c'est que on se dit, c'est pas le projet du gamin, mais le gamin est porteur de tout l'espoir de la famille pour sortir d'une certaine condition difficile, et donc une pression.
Ça enfin, pollue un peu le gamin. Hein.
Ça, alors je te répondrai après à cette question. Juste par rapport à Diane, organiser, tu me disais réorganiser des schémas mentaux, mais avant de réorganiser les schémas mentaux, parce que y a beaucoup de préparateurs mentaux qui font ça, mais avant de réorganiser ces schémas mentaux, il faut désorganiser les anciens déjà. Déconstruire. Et déconstruire des croyances, c'est compliqué. Déconstruire des croyances qui sont bien ancrées avec des blessures de l'enfance, des rejets, des humiliations, des injustices, des abandons, des trahisons, avec tout ça, si tu veux, c'est hyper difficile. Va faire comprendre à un gamin pourquoi il se sent mal alors qu'il a manqué de rien, et va faire comprendre que quand il était petit, il a souffert parce que par rapport à sa couleur de peau, il a été jugé, il a ressenti. Parce qu'un enfant, il ressent avec les sensations, il prend ça, il sait même pas pourquoi et comment il l'a pris.
Ouais.
Tu vois. Donc après, il y a plein de faits de vie derrière qui peuvent rappeler ça, et on peut revenir à ça. Mais si tu déconstruis pas toutes les croyances, c'est compliqué.
Ouais.
Tu vois, voilà. Et tu me disais, toi, par rapport au projet de la famille. Alors moi, mon but à chaque fois, quand je travaille avec un joueur, je dis, quand t'es sur le terrain, t'as pas de famille. Ta famille, c'est les joueurs. Et ton père ou ton frère ou ton grand frère, c'est le coach. Si tu joues avec ta famille, tu joues avec autant de poids sur ton dos. En réalité, tu dois pas jouer pour ta famille, tu dois jouer pour tout le monde. Parce que satisfaire ta famille, c'est un projet trop bas. Ta famille t'aimeront toujours que tu loupes ou que tu loupes pas, ça sert à rien. Si tu veux vraiment un projet haut, va satisfaire plus loin, va satisfaire même ceux qui ne t'aiment pas. Tu vois?
Mais est-ce que alors là, tu parles de pression, c'est intéressant. Tu dis, est-ce que ça élargit pas encore la pression? Est-ce qu'on faudrait pas résumer à dire,
non,
tu joues pour personne, tu joues pour le jeu?
Non, parce que, on joue pas pour personne. On joue pour transmettre des émotions. C'est ça qui nous transcende. On joue pas, comme dit Benzema, il faut être aimé. Tu vois,
aussi.
Tu joues pour transmettre des émotions. Donc forcément, tu dois aller chercher au fond de toi.
Le mari.
Pas pour briller. En fait, c'est ça. Faut pas. C'est pas briller devant
on
les
oublie
autres.
Parfois.
C'est leur transmettre
c'est
des
vrai.
Émotions.
C'est
transmettre
ça.
Des émotions, c'est quoi? C'est inspirer.
Le
ça veut
supporter
dire que
attend cela.
Quand je suis sur le terrain, quand je suis sur le terrain, tu me regardes, et je t'inspire. Limite, tu te rends pas compte, mais t'es sur le terrain, t'es à ma place parce que je fais des choses bien et que je prends du plaisir et que je te le transmets. C'est ça. Et le plaisir, il est pas là, il est là. Là, t'as que du stress, hein.
Ouais.
Excuse-moi, je vais un peu vite des fois.
Il est au taquet.
Ouais,
et
ouais,
non, vraiment, c'est assez incroyable. Voilà, c'est moi qui nous le dit, c'est aussi Faté. Vous voyez le coach Tolé?
Non, mais moi,
ouais. Une leçon de vie peut-être. Hein.
J'ai eu la chance de le rencontrer, Yazid, il y a quelques années.
On avait
échangé. Et c'est vrai qu'on a échangé 3-4 heures. Et c'était vraiment, je le dis, hein, objectivement, c'était extrêmement intéressant.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il m'a convaincu sur certaines idées que j'avais en termes de gestion du personnel. Parce que j'ai envie de dire que ça va même au-delà du footballeur. Hein,
c'est vraiment
à ce niveau-là. Et c'est vrai que tu m'as permis, même dans ma gestion de groupe, même lorsque je suis face à mes étudiants, face à mes gamins, en tout cas, cette perception que j'avais, je pense, tu m'as fait mûrir là-dessus, donc je te remercie.
Est-ce que ça s'apparente pas à un travail un peu de psychologue, quasiment, ce que tu fais?
Tu sais,
on a l'impression.
T'as souvent les entraîneurs aujourd'hui te disent, je suis là pour entraîner, je suis pas là pour faire de la psychologie. Tu entraînes un footballeur, un corps. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit humain.
Ouais.
C'est celui-là le plus important. C'est celui-là qui doit être sur le terrain. C'est le vrai soi, c'est celui-là. Parce que celui-là, on oublie que cet esprit humain, il est corrompu par un esprit social. Tu vois? Par un ego. Et c'est sur ces deux personnes-là à l'intérieur qu'il faut travailler.
Ouais.
Parce que l'ego, le plus dur, c'est que l'ego, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes, l'ego. Et le vrai soi, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Moi c'est sur ça que je travaille. Je sais que les coachs ils sont pas très friands de mon travail parce qu'ils ont l'impression.
J'ai eu des
coachs de Ligue 1 justement.
Alors.
Attends parce que j'ai un très bon ami qui est bien dans le foot qui m'a proposé, je dirais pas le nom des clubs mais qui m'a proposé à des clubs.
Allez, il faut les donner.
Qui fonctionnait pas. Et moi j'ai eu toujours la même réponse mais j'ai eu une réponse assez générale qui est donner la confiance à mes joueurs et les motiver, c'est mon taf à moi. Ouais, c'est ton taf, c'est pas mon taf. Moi, je suis pas là pour motiver ou donner la confiance. Je suis là pour que ton joueur, il soit à 100% son cerveau. Faut que son cerveau soit à 100% dans ce qu'il fait. Pour qu'il soit concentré. Pas la confiance. Moi, je travaille pas la confiance.
Ouais.
La confiance, elle vient quand t'es concentré.
Aussi.
Quand t'es concentré, tu joues bien, t'as confiance. Il n'y a pas de manque de confiance sur un terrain. On peut en parler pendant des heures de ça.
C'est sûr. Diane, avant la pause, avec Yazid, notre invité.
Alors en fait, pour rebondir quand même sur les coachs, c'est vrai qu'il y a un grand manquement quand même au niveau de la formation des coachs. Donc ça
je comprends
aussi que certains coachs puissent voir
Paris 2024 approche, peut-être on aura des miracles.
Comme une intrusion. Après, je voulais rebondir sur le monde du sport en général. On a vu quand même avec les JO, avec tous les athlètes qui ont abandonné les compétitions, etc. Aujourd'hui, en fait, on a l'impression que les sportifs de haut niveau, ce sont des super-héros, des supermen. Et comme tu le disais, à l'intérieur de ces corps, il y a quelqu'un, il y a un cœur, il y a des émotions. Et si on veut pas avoir des gros burn-out et si on veut pas avoir de gros scandales dans le milieu du sport ou des événements un peu catastrophiques, il faut vraiment que toutes les fédérations s'attachent à proposer ce genre de service dans leur fédé, avec leur DTN, et aussi que les clubs s'attachent de personnes comme toi pour pouvoir y arriver.
Merci.
On n'arrive pas en tout cas.
On y arrive.
Ouais, on arrive. On espère.
Arriver,
2024 arrive.
Non, je travaille pas.
On espère. Non, mais quand même. J'ai jamais dit le contraire.
J'ai
jamais dit le contraire.
Après, il y a quand même eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience de l'importance du travail psychologique dans le sport. Alors effectivement,
ça
peut-être pas.
Formaté malheureusement.
Et en fait, travail quand même encore.
Excuse-moi, mais tu travailles avec des gens avec une mentalité particulière quand même. Le football, c'est mentalité particulière.
Ouais.
Mais tu respectes pas leur vision du monde, donc tu peux pas. Si tu vas pas dans leur vision du monde, ils viendront pas dans la tienne. Ah. Et faut plus les comprendre. Et c'est ça le souci.
Ah,
c'est plus la compréhension. Hein.
Je suis d'accord avec toi, en fait. Mais pour moi, la vraie barrière, elle est que globalement aujourd'hui, ceux qui peuvent avoir accès à ces psychologues, à ses accompagnateurs, t'appelles ça comme tu veux, c'est souvent des athlètes déjà aboutis on voit par exemple Quartararo qui a fait ça pour passer du statut de top
MotoGP
à champion du monde. Là, toi, tu t'attaches peut-être à des gamins qui sont pas encore.
Ah, pas du tout. Travaille même avec des pros. Je travaille même avec des gars qui ont signé pro, qui étaient pas pro quand j'ai commencé avec eux. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que je te dis, je suis vraiment sûr de mon travail. Je sais ce que je fais.
Bien sûr.
Et
les sportifs sont demandeurs aussi.
Ouais. Pardon.
Les sportifs sont demandeurs.
Ils peuvent pas tous se l'offrir. En fait, c'est ça que je voulais dire.
Justement, moi, on peut s'offrir mes services parce que depuis 6 ans, j'ai toujours été gratuit. J'ai jamais pris un euro, même au pro. Voilà.
Voilà, il est gratuit. Football Intelligence Training avec Yazid qui reste avec nous jusqu'à 21h. Une courte pause et on revient rapidement.
Time Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h39 minutes en compagnie de Yazid de Football Intelligence Training et aussi Diane, notre consultante, accompagnée de Louis-Marie et le coach Tollé. Allez, on prend la direction de Marseille.
Time Sport, la troisième mi-temps.
La Conference League avec les hommes d'un certain Sampaoli. L'OM doit-il justement jouer cette toute dernière coupe européenne que l'UEFA a mis en place à fond, le coach?
Je me pose en fait pourquoi se poser la question si l'OM doit jouer cette coupe européenne à fond. C'est un vrai problème français, ça.
Ouais. Deuxième derrière le Paris Saint-Germain.
Déjà, ça veut dire quoi la jouer à fond?
C'est un problème français.
On a eu ce problème
justement. Ne pas la jouer à fond.
Et en plus,
pour moi, c'est un manque de respect parce que tu parles quand même du club qui a joué le plus de finales de Coupe d'Europe.
C'est vrai.
Qui a son histoire de part justement ses épopées européennes et notamment des championnats remportés. La Coupe d'Europe fait partie de l'ADN olympique de Marseille. Alors oui, si t'as envie de te dire ah oui, mais l'effectif il est un peu juste. Faut jouer la place en Ligue des Champions, mais jouer la place en Ligue des Champions pour faire quoi derrière? T'as une conférence ligue là, bon, qui a été créée, je veux dire, mais si t'as envie
d'accord,
les grands clubs européens et du monde, lorsqu'il faut gagner un titre, même le titre qui paraît dérisoire, ils jouent à fond pour gagner les titres. Pourquoi nous en France, on se pose la question de sacrifier, de jouer à moitié, comme dit Louis-Marie? Qu'est-ce que ça veut dire en plus?
Non mais là je suis
bien sûr qu'il faut la jouer.
Alors il faut la jouer. D'accord avec le coach. À un moment donné, faut arrêter de déconner. Qui est le Marseille pour faire la fine bouche devant une potentielle belle histoire européenne? Il y a un moment, l'Europe, moi ça me fait toujours marrer. Là, je vais tellement Claude là-dessus.
Alors,
année après année, les clubs se battent pour jouer la Coupe d'Europe en championnat. Ils s'écharpent pour la 5e, la 6e place. Et quand ils arrivent en Coupe d'Europe, ils envoient l'équipe bis. Il y a un moment, faut arrêter de déconner.
Ouais.
Ça sert à quoi d'être en Coupe d'Europe si c'est pour pas la jouer? Là, effectivement, l'argent. Elle n'est pas encore prestigieuse.
L'argent, selon dit, les droits télé. Les droits télé aussi.
Mais si tu veux, mais quelque part, là, c'est un faux calcul parce que la réalité, si on va plus loin dans l'argent, justement, t'es un business, gagner une conférence européenne. Il est évident que, en termes de retombées économiques, même si elles sont pas forcément directes, ça rapportera potentiellement de l'argent à l'OM, bien plus qu'une troisième place européenne. Alors oui, la troisième place t'apportera peut-être la qualification à la Ligue des Champions, ce qui est même pas sûr. Mais c'est une équipe hypothétique. La réalité, c'est que tu grandis en gagnant des coupes européennes, aussi petites soient-elles. Et regardez les clubs espagnols, ils se sont construits en faisant ça, en ne boycottant pas la Ligue Europa.
Portugais aussi.
Les clubs espagnols, les clubs portugais. Ouais. Le meilleur exemple, c'est Séville, qui joue maintenant régulièrement Ligue des Champions, qui a construit un club qui est sans commune mesure avec ce qu'il était il y a 15 ans. Il l'a bâti sur quoi? Sur la Ligue des Champions, sur les qualifications en championnat. Ouais. Que dalle. En finissant 5e, 6e de la Liga, et en gagnant la Ligue Europa. 1, 2, 3, 4, 5 fois.
Regarde, je te donne un exemple. Marseille a joué... Alors, éliminé de la Ligue Europa, c'est vrai, ça peut être une déception. Tu joues le match contre le Lokomotiv Moscou devant 40 000 spectateurs.
Ouais, quand même.
T'as pas beaucoup de clubs en France qui vont jouer un match potentiel de barrage de conférence devant 40 000 spectateurs. Et là, je rejoins Louis, c'est que si l'OM élimine Karabakh, va falloir quand même le faire et faire le parcours. Mais si t'as l'OM en quart ou en demi-finale, t'auras les 65 000 personnes, quelle que soit la compétition.
Des rentrées économiques.
Et heureusement que tu as encore cette passion là dans le monde du football, là où les droits télé, l'argent bouffe de plus en plus cette discipline.
On poursuit l'Olympique de Marseille avec toi, Diane et Yazid.
Alors, après, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Je blaguais sur l'argent, mais ça reste quand même une réalité. Quand tu accèdes à telle place, il n'y a pas que les droits TV, il y a aussi la Fédé, il y a aussi pas mal d'autres subventions qui rentrent en jeu. Mais voilà, cette mentalité française, comme disait Claude, ça me fatigue en fait, d'être toujours en train de trouver des excuses pour pas pouvoir jouer à fond, pour pas pouvoir. Mais ce qu'on attend d'un grand club, est-ce qu'on attend moi, je suis pas sûre que Dimitri Payet, on lui disait, copain, mollo sur ce match-là, quoi. Lui, il a envie de jouer tous ses matchs à fond, il a envie de briller, il a envie de. Et pourquoi en France, on se pose toujours la question de, est-ce qu'on ne devrait pas, il y a une demi-mesure, regarder le verre à moitié plein, quand même, on est déjà là, c'est pas mal. Non, il faut y aller à fond. C'est comme les grands clubs, c'est ça en fait.
Et puis on est qui?
Chaque guerre.
Une coupe d'Europe. On a deux coupes d'Europe.
On est qui pour se permettre de dire ça en fait?
De prendre par-dessus la jambe Franchement, on serait le Real Madrid. Ouais. Qui a 14 Ligue des Champions dans la poche, 2 Ligue Europa.
Mais c'est la France qui a créé ses coupes d'Europe.
Il a plus de place dans les poches pour prendre une conférence.
Oui,
il la jouera à fond.
Mais
bien sûr.
La réalité, moi je prends d'autres sports. Alors, je rejoins tellement Diane sur ce qu'elle vient de dire sur la mentalité. Je vois Raphaël Nadal, tu le mets n'importe quel match, n'importe quel endroit, il se bat à 100%, même s'il me joue moi, bon ça sera pas très dur, sur un terrain à côté dans le coin. Le mec, il va se battre à 100% parce que c'est sa mentalité.
Oui, mais on a l'héritage coubertinien. L'essentiel, c'est de participer.
On manque surtout beaucoup d'humilité, je trouve.
L'Olympique de Marseille avec Yazid.
Moi, je vais te dire, il faut jouer chaque seconde passée sur le terrain. Il faut la jouer à fond. Hein. C'est pas une question de coupe ou de pas coupe. Hein. Pour moi, c'est clair que tu dois tout jouer à fond. Surtout quand tu dis l'OM et que tu veux jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu veux jouer le championnat plus Ligue des Champions et tu vas me dire que t'es pas capable cette année de jouer une C8 quoi. Après, c'est toujours ça. Ouais, on respecte pas parce qu'on se croit toujours au-dessus. On est obligé de se donner toujours on est obligé de se donner une fausse confiance. Mais c'est vraiment la preuve qu'on n'a pas confiance en soi. On manque d'humilité énormément en France. Regarde le Real Madrid. Tu les mets dans cette compétition, la Conférence League, ils vont te la gagner. Hein. Ça fait une coupe.
Elle sera là. Et surtout, ce qu'il faut dire, si tu veux être performant en Ligue européenne, en Ligue des Champions, si d'aventure tu te qualifies. Il faut avoir pris l'habitude de gagner au niveau précédent, au niveau inférieur. Donc, c'est en étant performant en Conference League une année, puis une autre année en Ligue Europa, puis 2 ans, puis 3 ans, qu'un jour, tu auras la maturité pour être performant au plus haut niveau. Il n'y a que comme ça que ça marche, le haut niveau.
Il n'y a pas de secret.
Et ça les équipes françaises n'ont pas compris depuis 20 ans, parce que malgré tout, on prend cette Ligue Europa. Moi, ça me fait rire. La Ligue Europa ou la Conference League, mais la Ligue Europa, on la prend par-dessus la jambe, alors que jamais un club français ne l'a gagné.
Mais qui on est pour
expliquer qu'elle n'est pas assez bien pour nous. Mais c'est nous qui ne sommes pas assez bien pour elle, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire.
Une Ligue des Champions, une Coupe des Coupes qui n'existe plus.
C'est fini. La Ligue Europa, on l'a perdu à chaque fois en finale. Et il y en a un paquet qui ont essayé. Hein.
C'est vrai. On a perdu deux fois.
Ouais. Dont Marseille deux fois. Mais Marseille, or Dieu sait que j'aime pas ce club, je m'en cache pas.
Bien sûr.
Mais on va être très honnête, s'il y a bien un club qui est réglo en Coupe d'Europe et qui joue toujours le coup, c'est Marseille.
Ouais.
Donc ils ont toujours été irréprochables. Et franchement, vu la riche histoire européenne de ce club,
ouais,
s'ils la jouent pas, s'ils la jouent à moitié, qu'ils se font sortir par Karabag, ils vont avoir l'air de quoi. Ne me dites pas que s'ils se font taper par Karabag comme des glands, que derrière ils vont se reprendre et finir deuxième du championnat. Ça a forcément impacté négativement leur saison.
Et puis au contraire, alors faut voir après les clubs, mais c'est une opportunité pour eux. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même l'effectif pour aller faire un petit parcours.
Il est pas mal.
Et tu sais ouais, comment ça, à Marseille, ça va très vite. C'est-à-dire que si tu arrives à enchaîner un quart de finale, tu sens que t'es
il y a
une bascule. Et là,
ça
va dans autre chose.
Oui. Bien sûr.
Que tu as
Et puis attends, on parle du club, on peut parler des joueurs aussi. On n'a pas que des joueurs qui ont un palmarès comme Laura. Tu parlais de Dimitri Payet, son palmarès c'est une Coupe de la Réunion. Voilà, c'est tout. Son palmarès, il s'arrête là. Il n'a rien gagné en professionnel, ce garçon.
Une bagarre sur le terrain, non?
Ouais. Je suis pas sûr qu'il gagne.
Oh, quand même pas.
Je suis pas sûr qu'il gagne en bagarre.
Ça va, il a été.
Peut-être qu'on a un peu de Nutella, mais c'est à peu près tout.
Belle compagne quand même.
Non, mais franchement, non. Dimitri Payet, voilà, c'est typiquement le genre de joueur. Il a 34 ans, il n'a pas de palmarès. Lui, il devrait se dire, c'est l'opportunité de. Bah d'aller soulever un trophée et voir ce que ça fait.
Mais je pense qu'il est dans cette optique-là.
Alors on a des réactions pour Yazid.
Tu as ça et tu as aussi les autres joueurs qui sont des joueurs à très fort potentiel, qui ont entre 20 et 22 ans.
Ouais.
Bah justement, leur carrière passe par là aussi. Bah, passe par une grosse première épopée.
Gagner,
avant de partir
ça tombe pas du ciel.
Bien sûr.
Ça tombe pas du ciel. Je prends toujours les exemples du tennis pro, parce que moi je travaille dans le tennis pro.
Ouais.
Mais quand vous voyez un joueur qui gagne un grand chelem, c'est parce qu'il est passé par tous les petits circuits satellites. Il a gagné en Challenger, il a gagné en Futur, il a gagné dans les petits tournois au fin fond du bled.
Ouais.
Il s'est cassé le cul, il est monté étape par étape. Mais gagner, ça prend. Ça tombe pas du ciel.
Oui, ça s'apprend. La compétitivité, ça permet de s'améliorer. Si et seulement si on est capable aussi derrière de tirer des leçons de chaque match, de mettre en place des automatismes, de changer ce qui allait, ce qui n'allait pas. Etc. etc. Il y a tout un travail d'analyse qui est à faire derrière. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Il serait temps, quand même, en France, qu'on arrête avec cet esprit un peu coubertinien et qu'on passe vraiment à une mentalité de professionnel. T'es là pour gagner, tu joues.
Mais
tu
je
gagnes,
trouve que
quoi.
C'est beaucoup dans le foot, quand même. Hein. C'est pas forcément partout pareil. Je mettrais un bémol. Non, je dis pas que c'est que français, parce qu'il y a beaucoup de sports où on prend les compétitions sérieusement et où on gagne. Donc, on est quand même un pays qui gagne beaucoup en sport.
À chaque fois, en grappling ou en MMA, qu'on tire dans l'équipe de France de grappling, par exemple, quand j'étais. Les gars tiraient des Russes, c'était mais je tombe contre un Russe. Mais tais-toi en fait. Ouais. Si t'es là, c'est que t'as le même niveau que lui. Donc vas-y en fait, arrête de dire je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Qu'est-ce que tu sais faire et fonce. Ouais. Il est Russe, il vient pas d'une autre galaxie. Quoi.
Mais là, tu soulèves un autre point qui est hyper intéressant dans le coaching et qu'on voit un peu partout, c'est qu'en France, on a, à mon sens, un vrai problème. On cherche à avoir des mecs complets qui savent tout faire. Mmh. Alors que pour moi, la base du coaching, je l'avais appris avec pas mal de Tony Nadal, ce genre de coach un petit peu compétent quand même.
Ouais.
C'est on travaille d'abord ses points forts au maximum. Et en France, on veut des gens complets qui savent tout faire, mais qui sont moyens à l'arrivée, qui n'ont pas de points hyper forts.
C'est ça.
Et il y a un moment, si t'as un point fort, et ça c'est le conseil que je donne, mais à tout niveau, à tous les auditeurs, vous jouez au tennis, vous jouez à n'importe quel sport.
Oui.
Ce que vous devez travailler en priorité, c'est vos points forts. Commencez pas à vous dire ouais, mais mon pied gauche il est pas bon. Bah c'est pas grave. Bah, tu joueras quasiment qu'avec le pied droit, mais entraîne plus ton pied droit pour que ton pied droit il soit au top. Parce qu'on ne fait pas la différence en étant moyen partout. On fait la différence en étant excellent quelque part.
Ça peut être fructueux. C'est ça, tout à fait.
Donc, Marseille doit jouer.
Marseille doit jouer. Même
point
vous.
Final.
Marseille.
Ouais, vous le pensez.
Moi je pense que de toute façon, Sampaoli ne laissera pas une seconde. Hein, et
ouais.
Sampaoli veut gagner. C'est un gagnant.
Il a cette grinta.
Ouais,
le club. Où il y aurait le plus gros chantier à faire, selon vous. Voilà, c'est Malik qui vous pose la question.
Là aujourd'hui.
En termes de mental, hein.
Tu sais, c'est surtout mental.
Avec les joueurs,
c'est surtout mental. Hein. Tu vas pas changer le physique des joueurs. Hein. Il faut qu'ils aillent mieux pour mieux jouer, tout simplement. Tu tires. Si je pouvais choisir, je prendrais Lens. Je vais te dire pourquoi.
Les Lensois.
Parce que c'est. C'est pas qu'ils ont besoin d'un. Ouais. Il y en a qui ont vraiment beaucoup plus besoin. Hein, genre Saint-Etienne, Metz, tout ça.
Ouais,
c'est beaucoup plus dur. Voilà. En revanche, d'ailleurs, ils prennent Duprat. Bon, après. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Lens, pourquoi Lens? Parce que c'est une super équipe. Ils ont déjà tout compris. Hein, j'ai pas grand chose à leur apporter. Mais si je pouvais apporter quelque chose, c'est peut-être au niveau de rester dans leur identité, dans leur mine de charbon, à bosser, charbonner.
Ouais.
Parce que depuis un certain temps, tout le monde parle que de Lens. C'est les meilleurs. Bah d'ailleurs, à partir du moment où ils sont, j'ai fait une publication là-dessus.
Ouais.
Le 5 novembre, ils mettent un 4-0 à 3.
Et depuis 5 novembre, ils passent le 7 novembre dans le téléfoot, c'est la fête. Et depuis le 7 novembre, ils n'ont pas gagné un seul match quand même.
Ah ouais, c'est pour
tu
ça.
Vois pas. Ils ont 5, je crois, 3 défaites.
Et ils ne s'arrêtent plus de faire la fête, notre Giovanni National.
En plus, ah bah d'accord, ok.
Ouais, bah ouais. Voilà,
non, mais c'est ça aussi, c'est retour aux fondamentaux.
Ouais, donc je vais tenir, on poursuit. Avant la Formule 1, avec Dumarry.
Sur une publication, Yazid, que j'ai vue sur ton Insta.
Oui.
Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Tu parles justement d'ailleurs que l'excellent attaquant réunionnais de Strasbourg et de Ben Yedder qui passe. C'est ça, il y a une interview, hein, on les voit passer sur nos confrères de
Ben. Ouais.
Est-ce que tu pourrais.
Alors, le mental aujourd'hui, il est beaucoup attaqué justement parce qu'il y a beaucoup plus de diffusion de réseaux. C'est Serge Aurier qui disait même un commentaire, quand on lit un commentaire sur les réseaux, ben, même ça nous trouble. Même quand il est bon, on ne sait pas si on a été bon ou pas, c'est même pas des connaisseurs de foot, etc. Ta question, c'était. Ben Yedder. Oui. Ben écoute, il passe. Moi, je conseille à tous les joueurs de Ligue 1, quand ils doivent jouer le dimanche après-midi, après ça se trouve ils le savent pas quand ils sont enregistrés, de surtout pas aller dans Téléfoot, parce que à chaque fois que t'en as un qui passe dans Téléfoot, alors j'ai publié ça pour dire ce que vous avez remarqué, mais à chaque fois derrière le joueur il
fait rien. Bon,
là t'as Ben Yedder et Ajorc, Ludovic Ajorc, qui sont deux super, ils sont tous les deux deuxième ex aequo au championnat. Ils te font une interview, moi je vois l'interview, en plus tu vois un petit peu t'arrives à comprendre un peu leur façon de penser et vers où ils vont. Ils sont déjà dans le futur alors qu'il faut être dans le présent. Et à la fin, à chaque fois, aucun n'a marqué, les deux équipes ont perdu 2-0. Et après, il n'y a pas que ça. Quand tu passes en téléfoot, t'as toutes les familles, la famille qui t'appelle, les copains qui t'envoient des SMS. Mais éteins ton portable, ne regarde même pas le truc, quoi, tu vois. Ouais. Regarde-le plus tard, tu vois. Voilà. Mais c'est, j'ai remarqué, je l'ai écrit, puis apparemment, il y en a pas mal qui l'ont remarqué.
Ouais, ça fait réagir. En tout cas, on donnera, justement, où on peut retrouver Yazid de Football Intelligence Training. On va s'attarder sur aller rapidement, il nous reste 3-4 minutes sur la Formule 1.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, c'est l'écurie des flèches d'argent, justement. Formule 1, les Mercedes, et dont le pilote britannique Lewis Hamilton a perdu ce titre mondial du côté d'Abu Dhabi, le dernier Grand Prix. Oui, au dépens du néerlandais Max Verstappen de l'écurie Red Bull. Et ça fait tant parler, quoi. Toto Wolff, il lâche pas le mic, hein.
Et ça fait parler parce que, un peu comme pour l'UEFA dont on parlait il y a pas en début d'heure, c'est un peu la cacophonie, c'est un peu compliqué.
De réclamation, le mari posé.
Bien sûr, mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de règlements qui sont très compliqués, très abscons, qui vont dépendre de plein de paramètres qui doivent être pris en course. Bref, à l'arrivée, il y a la lisibilité, elle est hyper mauvaise. Et encore une fois, moi je serais pour simplifier tout ça, parce que effectivement, personne n'a rien compris à cette fin de Grand Prix. Concrètement, à moins d'être juriste, c'était quand même hyper compliqué. À la fin, c'est cool pour Verstappen, il gagne, mais est-ce que l'équité sportive, elle est respectée? Moi, il faut quand même m'expliquer, il y a drapeau jaune. C'est-à-dire, drapeau jaune, c'est qu'on n'a pas le droit de doubler, tout le monde doit rester en file parce qu'on ramasse.
Il y a la voiture de sécurité.
Il y a la voiture de sécurité. Pourquoi il y en a qui peuvent s'arrêter au stand? À partir du moment où on neutralise la course, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Verstappen, comme il était juste derrière, il a pu rentrer au stand et chausser des pneus neufs, ce qui lui ont permis de gagner la course par la suite. Et comme Lewis Hamilton avait dépassé le pit stop, il n'a pas pu le faire. Donc en gros, il y en a qui ont eu un pit stop gratuit, qui n'était donc pas impacté, vu que comme ils étaient tous à le, ils rattrapaient le temps. Il y a un moment, c'est complètement ridicule. Moi, je considère que quand il y a drapeau jaune, il faudrait dire, on neutralise la course, personne ne rentre au stand, et on reprend la course dans les mêmes conditions. Il y a un moment, là, c'est un cas de. Ceux qui ont regardé le Grand Prix, Hamilton était largement au-dessus,
ça
et
fait
c'est l'effet de course. Qui ont permis à Verstappen de gagner. Alors moi, je suis très content, j'étais pour lui, mais objectivement, il faut être honnête, il y a quand même des moyens, il y a quand même des raisons d'être hyper énervé du côté de Mercedes.
Il a bien pris Lewis Hamilton, mais son écurie, non, son directeur sportif aussi.
Il l'a bien pris parce qu'il attend surtout de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, il se prononce
pas. On verra bien. Après, rapidement, Diane.
Ce qui est un peu déroutant, c'est que par le directeur de course n'autorise pas justement ces dépassements.
Ah ouais.
Et ensuite revient dessus.
La réglementation.
Donc voilà, c'est ce règlement.
Ce que dit Diane, c'est qu'en fait, la décision, elle a été prise en plusieurs fois. Ça a été oui et non dans un premier temps, puis oui dans un autre, et à un tour d'écart. Donc c'est
invisible. Ça a favorisé.
Merci Diane, le coach Etolé, sans oublier le mari, où on pourra retrouver Yazid alors sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est bien ça. Football Intelligence Training.
Tout à fait.
C'est ça.
C'est ça.
Juste en saisissant cela.
Football Intelligence Training.
Voilà.
C'est ça.
Un grand merci.
C'est moi qui vous remercie pour
nous avoir
accompagné. Merci
vraiment.
Pour l'invitation.
C'est gentil. Vous reviendrez, ça c'est promis, notamment sur les émissions spéciales Coupe d'Afrique des Nations qui arrivent à grands pas. Et nous, on remercie justement, on a des petites réactions de Patou, de Smaïl qui nous écoute en voiture et
Patou,
aussi
c'est
de
son
Sophie. C'est son prénom. Patou. Voilà, c'est Patou. Eh oui, Patou.
Okay.
Lui aussi, un supporter et un fervent amoureux du football. Alors, on se retrouve dès demain à partir de 20h, la suite des programmes à 22h avec Vanessa. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.